Eh bien, bonjour à chacun pour ce premier cours sur l'eschatologie. Donc, c'est ce que nous allons vivre pendant ces 3 matinées. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va parler de la mort, on va parler du retour de Jésus, on va parler de l'enlèvement, on va parler de plein de choses. Et j'aimerais simplement dire comment je vais planifier ces 3 rencontres. La première rencontre aujourd'hui, je vais parler essentiellement de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que veut dire la mort? Qui et comment allons-nous ressusciter? Où allons-nous aller? Qui sera jugé et pourquoi? Donc, tout un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Puis, au fur et à mesure, vous aurez la possibilité de poser des questions, soit de les écrire puis de les dire après, soit de m'interrompre. Alors, en fonction de l'enregistrement, c'est peut-être bien de pouvoir peut-être donner toutes les questions au même moment, comme ça on a un moment question. J'ai pris avec moi un certain nombre de livres qui parlent de la mort. Les quelques livres que j'ai dans ma bibliothèque. D'abord, j'aimerais présenter ces livres qui peuvent être des livres d'une façon générale. Pour une fois réfléchis, c'est un petit peu une théologie pratique, bien expliquée pour tous les domaines de la vie chrétienne pour des évangéliques. J'ai offert ça à mes enfants il y a quelques années à Noël et c'était quasiment leur livre de chevet. Donc c'est vraiment abordable pour tout le monde. Le prix est un petit peu moins abordable, je crois que c'est une cinquantaine de francs, 40, entre 40 et 50 francs. Mais c'est vraiment un ouvrage devrait être une référence. J'ai aussi un peu plus théologique, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mon Tisson. Oh, je n'ai pas pris mon Tisson. Voilà, c'est un Tisson. Donc c'est au niveau de la théologie beaucoup plus pour grand, on va dire, où on parle aussi de la mort. Quand on parle de la mort, on va aussi parler de la mort de Jésus. Et puis j'ai un livre de John Stott qui s'appelle La Croix de Jésus-Christ, qui est un évangéliste anglais qui était extraordinaire, décédé. Mais le livre est vraiment une mine d'or. D'autres livres un petit peu plus abordables, 55 questions. 55 réponses à vos questions sur l'au-delà. C'est, on pose des questions et puis on essaie d'y répondre. Alors j'ouvre au hasard, hein, pof. Et puis voilà, je prends le premier titre. La peur de la mort est-elle normale? Ou une autre question ici. Les humains deviennent-ils des anges au ciel? Donc toutes des questions qu'on peut se poser et qu'on peut aussi utiliser en famille. Un livre sur l'au-delà. Mais de toute façon, après, vous pourrez les regarder, hein, je les laisserai. De la mort escamotée au deuil assumé, mourir, comment le vivre? Donc, des témoignages de personnes qui sont en train de mourir aussi, parce que c'est aussi notre destinée. Sachons-le, on va mourir. Maurice Ray et Alain Burnand ont fait un livre qui s'appelle Demain, l'au-delà, qui explique aussi tout la partie thérapeutique pour accompagner les personnes à mourir. Emmaüs, je crois que c'était Pachouet qui a fait un livre aussi qui s'appelle L'au-delà, qui est un livre qui explique aussi au partir des versets bibliques ce que on peut en déduire. Si vous avez des enfants en bas âge, du genre jusqu'à 10 ans, un deuil, qu'est-il arrivé à Tante Christine? Ils expliquent un petit peu, du point de vue évangélique, comment ça se passe la mort, pourquoi et comment. Et ça, c'est intéressant. Il y a quelques images, donc c'est assez simple. Et puis, ça peut aussi intéresser. L'enfer existe-t-il de René Pache? Ben voilà, on y est en plein. Hein. L'enfer, qu'est-ce que c'est? Un témoignage, je pense que vous connaissez le docteur Gérard Landry, qui a écrit 4 minutes au-delà, 4 minutes dans l'au-delà. C'est une personne qui est morte, puis qui est revenue à la vie, puis qui explique un petit peu son témoignage. Notre but, destination ciel. Un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, hein, pour aller au ciel avec Jésus. Et puis enfin, la vie après la mort. Un petit ouvrage où il explique au travers des versets bibliques, surtout du Nouveau Testament, l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Donc voilà, ça vous fait jusqu'à Pâques une bonne lecture. Et puis on aura ce livre-là. Si jamais. Et puis sans oublier celui-ci qui est le premier livre que j'aurais peut-être dû présenter, qui est la Bible, ou qui est notre seul fondement pour vraiment comprendre ce que la mort est, et puisque la résurrection est. Il y a beaucoup de croyances, parfois même parmi les chrétiens. Par croyance, j'entends cette dimension à croire des choses qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui fait qu'on le croit. Et puis, le but aussi aujourd'hui, c'est un petit peu de démystifier ces fausses croyances, puis de réaliser ce que vraiment la Bible dit à ces niveaux-là. Donc, je vais peut-être vous heurter à certains moments donnés, mais n'ayez pas peur, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une petite généralité, c'est-à-dire on va essayer de comprendre ce que veut dire le mot eschatologie, pourquoi il en faut une, et puis quelle est l'histoire un petit peu de l'eschatologie depuis Jésus-Christ. Tu peux t'approcher. D'abord, l'eschatologie, qui n'a jamais entendu ce mot? Hein, oui, c'est normal. Ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Donc, j'ai pris la définition du Larousse. Puis, le Larousse dit que l'eschatologie, c'est un mot grec qui vient du mot eschatos, qui veut dire dernier, et puis logos, qui veut dire discours. Donc, discours dernier, ou discours de la fin des temps, ou discours de la fin. Et puis, il donnera comme définition ensemble des doctrines et de croyances portant sur le sort ultime de l'homme, eschatologie individuelle, et de l'univers, eschatologie universelle. Donc, c'est toujours intéressant parce que dans le dictionnaire, ils utilisent des mots ou des expressions qu'on ne comprend pas. Quand on veut chercher un mot, on a alors qu'est-ce que c'est l'eschatologie universelle? Qu'est-ce que c'est l'eschatologie individuelle? On y reviendra. Et puis, le nouveau dictionnaire biblique, que vous pouvez peut-être avoir, qui vient d'Emmaüs, dit que eschatologie vient du grec eschatos, qui veut dire dernier, ça on le comprenait aussi avec Larousse. Puis voici ce qu'il dit, le chapitre de théologie systématique qui développe la doctrine des choses dernières en général, et plus particulièrement des événements en rapport avec le second avènement de Jésus-Christ, touchant des préoccupations universelles au sujet de la destinée de l'individu et de la race humaine. La révélation biblique est la seule à présenter un schéma de l'avenir à la fois détaillé et empreint d'espérance et d'assurance divine. Donc en fait, l'eschatologie, on peut le définir en deux parties. L'eschatologie individuelle ou personnelle, c'est tout ce qui nous concerne nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis dans les deux fois suivantes, c'est pour ça qu'elles sont rapprochées d'une semaine pour qu'on puisse garder le fil, c'est ce qui va nous rapporter au retour de Jésus-Christ, à l'enlèvement, aux tribulations, au jugement dernier, au livre de l'Apocalypse, au livre de Daniel, où on va vraiment entrer dans une dimension où on va voir un petit peu, on va essayer d'oser mettre une chronologie à ces événements. Vous verrez qu'il y a plusieurs théologies qui ne se combattent pas, mais qui sont un petit peu différentes. Et puis, on va également parler du millénium, savoir si ça existe. Et puis, on s'arrêtera un petit peu plus dans le livre de l'Apocalypse au début avec les sept églises, voir un petit peu ce que veut dire les sept églises dans cette perspective de la fin des temps. Et puis, on s'arrêtera au dernier chapitre 20, 21, 22 de l'Apocalypse pour voir un petit peu quelle sera la finalité de toute chose. Ça va pour l'instant? On peut continuer? Bien. Alors, vous savez, l'eschatologie, c'est souvent délaissé par les chrétiens, par les pasteurs, par les chanteurs. Les raisons évidentes sont au nombre de trois, en tout cas ce que j'ai relevé. D'abord, c'est la difficulté à interpréter correctement les textes bibliques. Parfois, on lit un texte biblique, on ne le comprend pas, on pense que c'est dû à la fin du monde et on a juste raison, mais on n'arrive pas à le mettre vraiment une bonne chronologie ou une bonne compréhension. Et puis, c'est des textes qui sont nombreux. Il y a plus de 300 références dans le Nouveau Testament qui parlent de cette eschatologie, du retour de Jésus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très présent dans toutes les pages du Nouveau Testament. Mais c'est complexe. Et puis, quand on dit, ben, on va lire le livre de l'Apocalypse, souvent c'est un défi, ouais, je vais lire le livre de l'Apocalypse. Et puis, quand on commence à lire les quatre premiers chapitres, il semble qu'on comprend, quand on arrive au cinquième, et puis qu'il y a des bêtes, il y a des femmes, il y a des gens qui... Il y a des démons, il y a l'Hadès, il y a le diable, il y a des jugements. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a une femme, entre autres, qui accouche et on ne sait pas ce qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là. Et on ne sait pas tellement. Alors, c'est un petit peu un livre mystique. Pourtant, Jean, quand il a écrit pour dire, mais réjouissez-vous, je vais vous écrire pour vous dire que vous avez, en tant que chrétien, cette joie de pouvoir relever la tête puis de respirer parce que Jésus revient. Donc, ce n'est pas un livre négatif, pas un livre noir, ce n'est pas un livre qui doit faire peur, ce n'est pas un livre qu'on doit donner aux punitions, comme punition aux enfants chrétiens quand ils n'ont pas fait de bonnes choses. Mais pourtant, nous, on le considère aussi comme une punition, parce que quand on lit notre Bible d'une façon systématique, quand on n'arrive pas, je comprends rien, tout ça, je ne lis pas, ou bien je lis autre chose. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, les pasteurs. Ils ont parfois peur, et les chrétiens davantage, de s'aventurer dans le domaine un petit peu spéculatif de ces fins des derniers temps. Et puis, quand on propose une réflexion sur ce sujet, si on propose, parce que ce n'est pas évident dans les églises, eh bien, ça pose plus de questions que ça donne de réponses. Alors, ça sera peut-être le cas aujourd'hui. Moi, je ne pourrais pas répondre à tout. Mais si vous avez 20 questions, et puis qu'en entendant ce que je vais vous dire, vous avez 200 questions, c'est normal. Parce que ça suscite des questions, ça suscite aussi un intérêt. En deuxième lieu, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas souvent l'eschatologie? C'est parce que ça n'a pas tellement d'incidence dans notre vie. Vraiment, qu'est-ce que ça nous change que Jésus revienne le matin quand on prend son petit déjeuner, quand on va au travail, quand on fait le personnel, quand on revient, quand on témoigne un petit peu aux gens? Qu'est-ce que ça fait que le millénium va arriver ou bien que au niveau de la mort, eh bien, on irait dans tel endroit? Ça ne change pas grand-chose. Pourtant, ou alors, en quoi le retour de Jésus peut m'aider à la sanctification? Ah, faut pas s'encombrer avec ça. L'important, c'est Jésus, c'est une bonne relation avec lui. Mieux vaut laisser les spécialistes s'en occuper. De toute façon, ils écrivent des livres, et c'est bien. Et ces livres, j'essaie de les lire, j'arrive pas. Donc, je me concentre sur l'essentiel, c'est Jésus. Dans mon cœur, dans ma vie, point final. Puis le troisième domaine qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'eschatologie dans nos églises, c'est l'excès. Parce que certaines personnes ont un malin plaisir à rechercher tout ce qui touche un petit peu aux prophéties, à l'Apocalypse, et puis chaque fois, regarde des nouvelles, ils disent, ah, alors qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ah, mais c'est écrit, l'Antéchrist arrive. Et on est un petit peu bête, finalement, parce qu'on essaye de transposer sur ce que l'on voit au niveau de la vie de tous les jours, des versets bibliques qui font qu'on y croit dur comme fer. Et puis, quelques années après, on se dit, mais quel idiot j'ai été de penser ça. Évidemment, ce n'était pas ça. Mais sur le moment, ben, j'étais tellement empreint avec les autres de sentiments que c'était juste que ben, j'y ai cru. Alors, il y a plein de choses. Quand Israël bouge le petit doigt, tous les chrétiens ouvrent la Bible en disant « Qu'est-ce qui se passe? » Quand l'Europe bouge, « Ah, ces couronnes, qu'est-ce que c'est, ces royaumes avec ces différentes couronnes, c'est peut-être l'Europe, donc si ça bouge, Rome, Rome, la grande Babylone, donc dès qu'un pape change, ah, ben, c'est bientôt la fin du monde, ou bien l'islam, ah, d'autres vont dire que l'islam c'est Babylone, donc si l'islam grandit, c'est que la fin du monde arrive. Ou bien la Chine, on dit que c'est un géant qui se réveille, donc si la Chine bouge, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que Sodome et Gomorrhe? Non, c'est pas ça. Est-ce que, et puis on regarde et puis on se dit, mais ouh là 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 là, si les Chinois commencent à attaquer le monde, on est foutu, c'est la fin du monde. Et puis on trouve dans l'Apocalypse des versets qui pourraient y donner raison. Je me souviens en 1982, il y avait les planètes qui étaient alignées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus âgés. Et puis, il disait un verset d'Ésaïe en disant les planètes sont alignées, la Terre va chanceler. C'est-à-dire, c'est la fin du monde. Et puis, en fait, c'était un petit peu. Chrétien a raison, hein, qui ne sont pas d'accord avec l'astrologie, utilisait le même principe qu'eux. C'est-à-dire que l'astrologie et c'est ou l'astronomie et l'astrologie les deux, et puis cette idée de planète alignée, c'était complètement faux parce que on travaille toujours sur un plan plat. Donc c'est vrai qu'on est aligné quand on est à plat, si on voit de dessus. Mais en réalité, on est en trois dimensions. Donc ça peut être aligné, mais c'est milliards d'années-lumière de différence. Et puis, voilà, on disait que c'était aligné, alors c'était complètement stupide. L'astrologie, elle fonctionne comme ça. Les cartes d'astrologues fonctionnent comme ceci, avec une carte plate. Puis on voit que Vénus a des incidences avec la maison de machin, tout ça, mais à plat. Donc en réalité, c'est en trois dimensions et c'est tout à fait ridicule. Donc on est aussi ridicule qu'eux parfois. Et puis enfin, il y a la météo. Ah, le réchauffement climatique, c'est écrit dans la Bible. Donc la fin du monde est proche. La fin du monde, le monde est proche, j'y arriverai. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un drame de pouvoir tout le temps ouvrir le journal pour savoir. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, il n'y a que Dieu qui le connaît. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas tellement votre problème de vous préoccuper quand Jésus reviendra. Le problème, c'est d'être prêt. Et puis, c'est de préparer les autres aussi à ce retour. Et le problème, c'est que les gens qui véhiculent ce genre d'excès, hein, que je parlais tout à l'heure, eh bien, ils en parlent. Ils en parlent beaucoup. Puis quand on les entend, on dit encore, encore. Et puis ça suscite plus un dégoût qu'un vrai intérêt. Puis les gens, ils n'ont pas envie de savoir. Ils ont dit non, laisse-moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne vais pas m'encombrer la tête. C'est pour ça que ces raisons, ben, l'enseignement est négligé, même dans les chants. Moi, je suis intéressé souvent d'entendre, de regarder dans les chants qu'on chante, dans les chants. Dans les recueils de chants comme J'aime, comme dans les La Foi, ou bien comme T'as la gloire, ou bien d'autres chants comme ça, Chœur et Cantique, ou les chants qu'on chante aujourd'hui, maintenant. Combien parlent de l'eschatologie, combien parlent du ciel, combien parlent du retour de Jésus, finalement. Parce que ce n'est pas notre préoccupation. Et ce n'est pas notre préoccupation dans beaucoup de domaines. 300 références dans le Nouveau Testament, c'était une préoccupation des apôtres, c'était une préoccupation de Jésus. Et puis, comme je l'avais dit quand je présentais ce document, enfin ce courant enraciné, si Pierre disait, en reprenant la prophétie de Joël, qu'il arrivait dans les derniers temps, eh bien nous, on est vraiment dans les derniers temps des derniers temps. Et s'il y a 2000 ans, les apôtres sont préoccupés déjà d'une façon assez importante, puisqu'il y a 300 références, hein, pas 300 versets, mais 300 références. Il y a des livres entiers qui parlent du retour de Jésus, l'Apocalypse, de la mort, comme Matthieu 24, 25, comme 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, Apocalypse. Il y a vraiment des énormes quantités de versets qui parlent d'Apocalypse. Et nous, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que vous avez parlé de l'Apocalypse, la dernière fois que vous avez parlé de la mort, pas en disant ouh, j'ai peur de mourir, mais en disant mais qu'est-ce qui viendra après la mort? Est-ce qu'on en parle quand on témoigne de cette mort? Est-ce que on parle de notre espérance après la mort? C'était un petit peu ce que les disciples vivaient. Puis nous, on s'en arrête parfois à Jésus t'aime. J'ai assisté une fois à une présentation dans mon église en Belgique d'un évangéliste qui disait si tu veux aller au ciel, lève la main. C'était un petit peu court parce que ça voulait rien dire. C'était uniquement quelque chose de presque de manipulation émotionnelle. Hein. Bien sûr, personne ne veut dire je veux pas aller au ciel. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui ont levé la main, puis le résultat, c'est qu'ils ont été nulle part après. Et c'était normal. Parce que mieux vaut ne pas naître que d'être mal né et puis de naître comme il faut plus tard. Je disais que Jésus en parlait beaucoup, et c'est vrai. Je vais faire un petit historique de l'eschatologie pour expliquer vraiment, d'abord depuis la naissance de Jésus, disons, depuis le moment où il a travaillé activement à l'âge de 30 ans jusqu'au 3e siècle, eh bien, c'était bourré, bourré de gens qui parlaient du retour de Dieu. C'est impressionnant, hein? D'ailleurs, Jésus, il nous a un petit peu piégés en disant, certains d'entre vous ne mourront point avant que je reviendrai. Alors ils étaient, ah ben, ils étaient tout prêts. Et Paul l'avait bien compris et il disait ça aux Thessaloniciens. Jésus va bientôt revenir et puis les Thessaloniciens ils disaient, ah super, alors on va l'attendre. Donc on ne va plus rien faire. puis on va l'attendre. Ça, c'est 1 Thessalonicien. Puis 2 Thessaloniciens, Pierre y revient, puis il dit, non, mais écoutez, en l'attendant, faites quand même des choses, c'est bien. Relisez 1 et 2 Thessaloniciens, c'est vraiment la substance de ces deux épîtres. Donc Jésus affirmait qu'il reviendrait, les apôtres croyaient vraiment qu'ils allaient revenir, hein, qu'il allait revenir du temps de leur vivant, et puis ils sont tous morts quand même. Donc, et puis les pères de l'Église, donc c'était des auteurs chrétiens des deux, trois premiers siècles, eux avaient des opinions très variées, certains parlaient beaucoup du retour de Jésus, en relation aussi avec ce que Jésus et les apôtres présentaient, puis d'autres avaient complètement oublié ce point de doctrine. À partir du 4e siècle jusqu'au 18e siècle, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, il n'y a eu aucun intérêt. Les gens s'en moquaient totalement. Pour eux, Jésus, ce n'était pas du tout le reste de thé. À partir de Constantin, en 312, l'eschatologie est écartée de la vie de l'Église, de la vie des croyants, des doctrines, on n'en parle quasiment jamais. D'ailleurs, on voit dans les confessions de foi de l'époque qu'on n'en parle quasiment pas. C'est vraiment quelque chose de tout à fait négligeable. Augustin, au 4 et 5e siècle, donc il a vécu à cheval sur deux siècles, lui, il disait, OK, ben, comme Jésus il a vaincu les puissances célestes à la croix, ben, le millénium commence, donc on y est dedans, donc il n'y a pas besoin vraiment d'en parler puisqu'on est dedans. Et puis, aux environs de l'an 1000, donc ça va vite, hein, les gens, ils avaient la trouille, parce qu'ils avaient cru ce que Constantin avait dit, ce qu'Augustin avait dit, et puis ils se sont dit, si le millénium dure 1000 ans, et puis qu'on arrive en l'an 1000, gloops. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont rapprochés de Dieu à ce moment-là parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de passer à côté, ils avaient peur de ne pas être enlevés, ils avaient peur de pas être suffisamment chrétiens. Et il y avait une crainte, mais terrible, qui était fortifiée par l'Église de l'époque. Et puis les gens, ils avaient vraiment la trouille, quoi. Et puis 1000 ans a passé, puis il ne s'est rien passé. 1002 est arrivé, il ne s'est rien passé. Puis les gens, comment on fait ? Ben, ils ont commencé à abandonner, quoi, puisque c'était une fausse alerte, donc ils ont repris leur vie d'avant. Et puis c'est un petit peu terminé jusqu'au XVIIIe siècle. Puis au XVIIIe siècle, il y a une sorte de renaissance de l'eschatologie, hein, c'était un petit peu plus tard que la vraie renaissance du XVIe siècle, il faut attendre deux siècles. Et puis cette doctrine, elle est remise en valeur en disant « mais Jésus revient vraiment, il faut vraiment s'en occuper parce que Jésus revient ». Et puis, malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit des bêtises. Alors, ils n'ont pas cru, ou ils ont cru, puis finalement, comme les choses n'arrivaient pas, ils se sont dit, bon, ben, c'est des bêtises, quoi. Plusieurs dates du retour de Jésus ont été avancées, comme on l'a peut-être fait chez nous aussi. Par exemple, en l'an 2000, il y a une explication de Jésus qui parle du Samaritain. Je ne sais pas si vous souvenez de la parabole du bon samaritain. Et cette parabole du bon samaritain, c'est un homme qui sauve un autre homme et puis qu'il le met dans un hôtel, une hôtellerie, et puis qu'il lui donne 2 deniers pour pouvoir prendre soin de lui. Or, le denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier normal. Donc, il lui a donné quasiment de quoi nourrir et soigner cet homme pendant 2 jours. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'il a dit que ce monsieur-là qui l'a soigné, ce bon samaritain, va revenir. Donc, il reviendra après 2 jours. Mais comme dans la Bible, il est dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, eh bien, on fait l'association de tous ces versets, et puis on se dit, ben, 2000 ans après, Jésus va revenir. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette doctrine, mais moi j'étais assez attentif à ce genre de bêtises, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tordre les versets pour y faire dire ce qu'on a envie. Hein. Eh bien, j'ai bien rigolé à cette époque. D'autant plus qu'il y avait le changement de l'euro, donc la bête de l'Europe est en train d'arriver et la fin du monde est là. Et beaucoup de chrétiens ont été pris dans cette tourmente, je dirais peut-être fantasmagorique, hein, de croire que, ben voilà, et puis finalement en 2017, puis on attend Jésus. Il y a des gens très intelligents parmi les chrétiens qui disent, oui, mais Jésus est mort en 33. Donc attention, 2033 maintenant. Et j'ai entendu de manière très sûre des gens par le monde qui disaient, et j'ai lu leurs documents, qui disaient, on a reçu des prophéties dans le monde entier, pour différents pays, pour différentes personnes, mais il n'y a aucune prophétie qui dépasse 2030. Vous remettez ceci avec ce que je vous avais dit. Les gens disent, attention, Jésus va revenir en 2030. Donc, mes amis, on n'a plus que 13 ans à vivre. Donc, profitez de ces 13 ans. Parce que Jésus reviendra en 2030. Les prophéties ne peuvent pas se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a rien après, c'est qu'il n'y aura rien après. Et puis, on croit ça. On appelle ça des croyances. Pas des croyances, des actes de foi, mais des croyances qu'on a dans notre tête et qu'on croit. Finalement, puis on est sûr que c'est vrai, puis on essaie d'encourager les autres à croire les mêmes choses, mais ça n'a pas de fondement. Le fondement, c'est que la crainte, la peur, ou l'attrait du sensationnel d'être celui ou celle qui dit des choses comme ça, ah, c'est vrai, oui, j'ai lu ça. Et puis finalement, ben, on se trompe. C'est pas ça l'eschatologie, c'est pas ça d'attendre le retour de Jésus, c'est pas de pronostiquer quand il reviendra. Donc depuis le XVIIIe siècle, ben, jusqu'à maintenant, ben, les gens ils ont pronostiqué le retour de Jésus, puis ça ne s'est jamais réalisé. Parce que si ça s'était réalisé, on serait au courant. Et puis, il y a eu aussi des croyances farfelues, non bibliques, qui ont été posées, puis je vous en parlerai de ces, on appelle ça des hérésies, c'est-à-dire des fausses doctrines qui nous mettent la confusion dans notre esprit, et puis on ne sait plus vraiment où on en est. Et puis, comme je vous le disais, ces croyances des chrétiens, de nous peut-être, c'est très forte. Il y a des symbolismes exagérés, il y a une spiritualisation de beaucoup de prophéties, il y a un imaginaire qui est déroutant dans notre tête, où on invente des choses, où on croit des choses, où on s'imagine des choses. Et puis finalement, quand on lit la Bible, on est un petit peu à côté. Au collège biblique que j'ai fait en Belgique, il y avait, c'était sur. En christologie, donc on étudiait la vie de Christ. Il y avait un étudiant qui n'était pas d'accord avec l'enseignant, et puis il disait: La Bible semble te donner raison, mais mon cœur me dit. Alors je trouvais beau, quoi. Je me suis toujours rappelé, parce que des fois, on dit que la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu, c'est notre seul critère d'éthique, de foi, de vie. Et puis, souvent, dans nos vies aussi, au niveau de l'eschatologie, la Bible semble dire ça, mais mon cœur me dit autre chose, et je crois plus mes sentiments que la Bible. Et là, je peux faire un certain nombre de petites déroutes. Ça va? Vous êtes d'accord avec tout ça? Bien. Alors, la fin de l'introduction, elle est là. Donc, je vais maintenant parler de cette eschatologie personnelle ou individuelle, puis je vais vous parler de la mort. Je vais recommencer. Je vais vous parler de la mort. Voilà. Ouais. Merci. Donc, la mort, il ne faut pas se tromper de définition. La mort est une séparation. La mort est une séparation. Il y a plusieurs sortes de morts que nous pouvons vivre dans notre vie. Dans le désordre, le divorce est une mort. Une déchirure, et qui dit mort dit deuil. Et il y a un deuil aussi que les divorcés vivent, qui n'est pas toujours compris, mais c'est une mort. Le mariage est une mort. D'ailleurs, on dit bien, je vais enterrer ma vie de garçon, je vais enterrer ma vie de jeune fille, et ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire que ma vie de célibataire doit mourir. Et quelque part, une personne qui se marie doit faire deuil de tous les privilèges qu'il ou elle avait quand il ou elle était célibataire pour entrer dans une nouvelle vie à deux où les donnes sont différentes. Et le mariage, c'est donc une mort. Vous êtes d'accord? Oui, c'est agréable. Le décès, bien sûr, c'est celui auquel on pense le plus. C'est une mort, une séparation du corps. Avec matériel, avec le corps immatériel, un déménagement. Hein, notre pasteur est en train de déménager. C'est aussi une mort. On va perdre ses points de repère, on va perdre ses références, ses amis. C'est aussi un deuil à faire. Une rupture sentimentale, c'est aussi une mort. Et parfois, on l'oublie aussi. Rupture, ben, on dit d'ailleurs, j'ai la mort dans l'âme. C'est pas anodin de dire ces choses-là. Dire qu'on avait des projets, et ces projets, c'est plus possible parce qu'il y a une séparation, une rupture. Et puis tout est anéanti. Et enfin, une naissance, c'est une mort aussi. C'est la mort à la vie fœtale, où l'enfant n'a rien besoin de faire, même pas respirer. Il se laisse vivre dans le ventre de sa maman. Et puis, à un moment donné, ben, il y a une séparation avec sa maman, il y a une rupture, il y a une déchirure, on va couper quelque chose, le cordon ombilical, il devra respirer par lui-même. Donc, c'est un changement de vie, finalement. Et toutes ces choses-là se trouvent dans la vie normale. Et puis, on a compris aussi que la conversion, c'était aussi une mort, puisqu'on mourait à notre vie passée. En ce sens-là, il y avait une séparation entre une vie nouvelle et une vie passée. Et puis aussi un deuil à faire, où je dois apprendre à ne plus penser un petit peu à ce qui faisait mon plaisir par le passé, mais je dois entrer dans une nouvelle dimension avec Jésus. Donc vous voyez que la mort, elle touche un petit peu différents domaines de notre vie, puis que ce n'est pas simplement le domaine du décès. C'est-à-dire quand on fait un accompagnement à la mort, eh bien ce n'est pas simplement un accompagnement au décès, mais c'est aussi un accompagnement à des ruptures différentes, à des divorces, à des ruptures sentimentales, à des changements de situation, même de métier. Parfois il y a un deuil à faire, et vous avez fait des deuils, sans forcément le dire à d'autres personnes, vous êtes passé par la mort. Alors, la Bible, elle enseigne trois morts différentes. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est la mort physique. Au départ, l'homme a été créé éternel, c'est-à-dire qu'il n'était pas censé mourir quand Dieu l'a créé. Donc, la différence entre Dieu éternel et l'homme éternel, c'est que Dieu n'a ni commencement ni fin, il est vraiment éternel, alors que l'homme, il a un commencement, mais il n'a pas de fin. En ce sens-là, il a une dimension éternelle. D'ailleurs, quand le serpent a dit à Adam et Ève, tu ne mourras pas, alors que Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, puis le serpent lui a dit, tu mourras pas. Donc, le premier problème théologique de l'être, de l'humanité, c'est un problème de mort. Qu'est-ce que veut dire la mort? Et puis quand ils ont vu qu'en mangeant de ce fruit qui n'était pas une pomme, sachons-le, eh bien, ils n'étaient pas morts physiquement. Ils se sont dit, waouh, je ne suis pas mort. Effectivement, je vais devenir comme un dieu. Et puis, ce n'était donc pas cette mort-là qui était d'abord le point central de ce que Dieu disait, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais c'est une mort spirituelle. Pas seulement une mort physique, une mort spirituelle. Et on a tous vécu cette dimension-là. Chaque fois qu'une personne va naître, elle est morte spirituellement. Elle est brisée de la relation avec Dieu. C'est une personne non régénérée qui se définit comme étant séparée d'avec Dieu. D'où la nécessité de ne plus être séparé avec Dieu, de faire alliance avec Dieu, de se convertir pour être à nous avec Dieu, de passer d'une mort spirituelle à la vie éternelle. Quand une personne physiquement, elle meurt, c'est vrai que son âme et son esprit, qui sont les êtres, la partie immatérielle de son corps, va partir dans un monde spirituel, tandis que le corps va retourner à la terre d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y a le troisième point, vous me direz, mais il y a tout ça. Il y a un troisième point, c'est la mort éternelle. La Bible, elle appelle ceci la seconde mort. Et puis, la seconde mort, C'est un état irrévocable, donc on ne peut pas revenir en arrière, dans lequel la personne reste séparée de Dieu pour l'éternité. La Bible en donne le lieu, elle parle de l'étang de feu. Quand Jésus, et ça veut dire que pour l'instant, tous les êtres humains qui sont sur la terre sont vivants, on va dire ça, soit sont morts spirituellement, et puis ils sont appelés à se convertir, soit sont chrétiens, et puis cette mort spirituelle n'a plus d'emprise sur eux. Mais la mort éternelle ou la mort spirituelle, c'est qu'après notre mort physique, on n'aura plus la possibilité de pouvoir choisir ou non d'être chrétien ou de se tourner vers Dieu. Ça sera trop tard et au jugement dernier, il y aura cette dimension, on en parlera tout à l'heure, où une personne sera séparée avec Dieu pour l'éternité, cette seconde mort. Et quand Jésus, parce que Jésus faisait aussi de l'humour, hein, quand il entend un monsieur qui lui dit laisse-moi d'abord enterrer mon père, puis après je te suivrai. Vous vous souvenez de ça en Matthieu 8. Et puis Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. Et c'est dans cette perspective de ces deux premières définitions de la mort, en disant, Jésus leur dit, laisse les morts spirituels enterrer les morts physiques, et toi viens, entre dans la vie. Donc Jésus ne voulait pas dire que ce n'est pas important d'enterrer son père. On serait complètement fou de comprendre ça, mais on le comprend. C'est ce qu'on a toujours compris quand on a lu ce verset. On dit, ah ben voilà, Jésus il veut pas que j'enterre mon père, mais il faut que je suive, donc je ne veux pas enterrer mon père. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est entre dans la vie. N'entre pas dans ce monde où règne la mort, mais suis-moi pour entrer dans ce monde de vie. Puis c'était un petit peu un jeu de mots que Jésus faisait pour cet homme. On ne sait pas s'il l'a compris, mais en tout cas, il dit, arrête de. Laisse les morts spirituels enterrer leur mort physique. Moi, je suis la vie et je fais la différence. Donc ça, c'est les trois premières définitions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est mort physiquement? Parce qu'on va tous mourir physiquement, le plus tard possible, on espère, hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, à partir du moment où je meurs jusqu'au moment où je vais ressusciter. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça un état intermédiaire, c'est-à-dire un état entre une vie terrestre et puis une vie céleste, dans la gloire avec Dieu, ou en enfer avec le diable. Alors, pour le sauver, il y a une évidence biblique, c'est que, on peut trouver ça dans le livre de l'Apocalypse. Si vous voulez, je vais vous lire de toute façon les références. Vous pouvez chercher dans votre Bible. L'état intermédiaire pour celui qui est sauvé, c'est-à-dire, utilisons les mots tels qu'ils sont bibliquement, celui qui s'est réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, celui qui a fait la paix en Dieu au travers de la croix de Jésus, pour se sauver, l'état intermédiaire, c'est un état de repos. Donc, on va dire qu'il va se reposer. D'ailleurs, la Bible dit ceci, en Apocalypse 13, 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, c'est un temps de repos, où on se repose de ce qu'on a fait durant notre vie. Mais c'est aussi un temps d'attente. D'accord? Et en Apocalypse 6, le verset 10 et 11, il est dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos, on y retrouve, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, on voit à nouveau un temps de repos, mais il y a encore d'attendre quelque temps. Donc, c'est aussi un temps où on attend. Et effectivement, on va attendre. N'importe quelle personne qui est morte va attendre le temps où il va ressusciter. Et puis enfin, c'est aussi un temps d'activité quand même, hein, on va faire des choses. En Apocalypse 7, le verset 15, il a dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône et ils le servent jour et nuit dans son temple. Donc on voit qu'on va aussi servir Dieu, on va le louer, on va l'adorer, on va avoir un temps d'adoration. Et puis de sainteté également, verset 14 de Apocalypse 7 qui dirait ceci, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc ce sera vraiment ceux qui auront été purifiés par le sang de l'agneau. Et on parle donc ici de chrétiens. Et puis, il est dit aussi dans la Bible, on le verra par la suite, que ces gens qui se sont convertis, finalement, ils vont être récompensés en fonction de ce qu'ils auront fait dans leur vie, soit en bien, soit en mal. Et puis, il y aura une récompense qui leur sera donnée. Et c'est assez intéressant d'utiliser maintenant, enfin, par la suite, on verra. Ce que Jésus disait à ses disciples en fonction de cette dimension de la fin des temps au niveau eschatologique. Mais je ne veux pas trop avancer pour la fin des temps au niveau de la deuxième partie. J'aimerais plutôt m'en référer aujourd'hui à cette eschatologie personnelle. Puis pour le perdu, ben c'est un petit peu particulier parce que, il faut savoir qu'une personne, soit qu'elle est sauvée, soit qu'elle est perdue, a une destinée éternelle. Pour le perdu, eh bien, cet état d'intermédiaire, ben, c'est un temps d'attente, un état, une sorte de salle d'attente, en attendant le jugement, en attendant la fin du monde. Tandis que pour le perdu aussi, oui, tant pour le sauver. Et puis l'état intermédiaire du perdu, c'est aussi un temps d'attente, mais de châtiment final qui aura lieu après le jugement, ce que Apocalypse 20, au verset 13, parle d'un grand trône blanc, où les hommes seront jugés. Et puis, à partir de ce moment-là, ils auront aussi une destinée éternelle, mais dans le tourment. Et le tourment, c'est être séparé de Dieu pour l'éternité, c'est cette seconde mort. Et cette seconde mort sera effective seulement au jugement dernier. Alors, ça va pour l'instant? Alors, quelques petites hérésies. Une hérésie, c'est des fausses doctrines, des choses qui nous font rigoler, nous, mais qui n'ont pas fait rigoler les gens parce qu'ils ont cru vraiment et puis ils y croient encore maintenant. D'abord, le purgatoire, cet état intermédiaire. Le purgatoire, c'est une invention catholique qu'ils ont reprise dans les livres apocryphes. Les livres apocryphes ou deutérocanoniques sont des livres qui sont dans la Bible catholique, pas dans la Bible protestante ou évangélique, et qui sont des livres qui sont écrits par les hommes, mais qui n'ont pas reçu l'attestation qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui animait ces personnes. Dans ces livres, vous en connaissez peut-être, vous avez les Maccabées, et c'est dans le livre des Maccabées que les papes ont pris cette doctrine-là. Vous avez d'autres livres comme Judith, comme Esther Grec, comme Ecclésiastique, pas Ecclésiaste, mais Ecclésiastique. Tobias, tout à fait, d'autres noms, il y en a plein, etc. Donc, ils ont pris ce terme de purgatoire. Purgatoire, ça vient du mot latin, qui est à la base a donné le mot purger, et qui a donné deux définitions, soit purifier, donc purger donc en purgeant, comme quand on mange une purge, hein, pour extraire hors de nous les mauvaises choses. Eh bien, pour les gens, le purgatoire devait être un endroit où on purgeait les choses qui étaient impures. D'ailleurs, la Bible, dans le livre des Proverbes, parle de l'or 7 fois purifié. Donc, ça veut dire que pour que toutes les scories, les parties qui n'étaient pas de l'or puissent sortir, eh bien, on chauffait à blanc l'or 7 fois, et puis ça purifiait toujours plus. Et ils se sont dit que ben, il doit y avoir un lieu d'attente pour le purgatoire, parce que normalement, les âmes pures, pour les catholiques, c'était directement le paradis. Mais qui peut dire, même parmi nous, qu'on est pur? Alors les gens, ils n'osaient pas le dire, donc ils se sont dit, ben, on va inventer, on va avoir un lieu pour être purifié, pour être digne d'entrer dans le paradis. Et puis, purger, on l'utilise aussi Et en français, pour une peine de prison, je purge une peine de prison. Et ça voulait dire les deux choses. Je purge dans un état qui est un petit peu enfermé, en prison, en attendant d'être libéré. Puis en attendant, je purge ma vie des mauvaises choses pour pouvoir être suffisamment pur pour entrer dans le paradis. Faut savoir que ce purgatoire trouve son origine dans des pratiques païennes romaines qui l'appelaient, eux, réfrigérum. Et ce mot réfrigérum a donné en français réfrigérateur, et qui est à la base du verbe rafraîchir. Alors, c'était un lieu de rafraîchissement pour les morts et pour les vivants. Rafraîchissement, souvenez-vous de l'exemple que Jésus donnait avec cette parabole du pauvre Lazare et du riche, avec au moment où il meurt, et puis où il y a le riche méchant dit à Lazare, enfin, trempe le doigt dans de l'eau pour que juste avoir une petite goutte pour que je puisse être rafraîchi, parce que je souffre cruellement ici. Et c'est ce mot rafraîchir, hein, cette goutte d'eau, qui dit que finalement, les vivants ou d'autres personnes peuvent aider ceux qui sont morts à pouvoir être rafraîchis, à pouvoir être adoucis, à pouvoir être purifiés pour pouvoir être sauvés. Et puis, du côté des vivants, on rafraîchissait le souvenir des morts en priant pour eux, pour pas les oublier. Donc, on dirait, faut que je me rafraîchisse la mémoire. Eh bien, on se rafraîchissait la mémoire des gens qui étaient morts pour pouvoir entretenir un culte des morts, pour que ces gens, grâce à nous, puissent pouvoir être purifiés et prêts à être sauvés. Et d'ailleurs, dans les prières catholiques, il y a des messes pour les morts. Vous avez déjà vu ça. Quand une personne meurt, on fait ce qu'on appelle une neuvaine. Bien sûr, c'est payant, évidemment. Et puis cette neuvaine, c'est qu'on considère que les gens ne sont pas vraiment purs. On verra qu'il y a différents niveaux dans le purgatoire. Et puis qu'en priant pour ces morts, pendant 9 jours après leur mort ou après leur enterrement, eh bien, on allait les purifier, quoi. Et en priant pour les morts, en faisant des messes pour les morts, eh bien, on allait permettre à ces gens de pouvoir accéder au paradis, quoi qu'ils aient fait, pour autant qu'ils soient catholiques. Parce qu'il y a 4 niveaux dans ce purgatoire. Il y a d'abord le premier niveau, qui est le niveau, on va considérer comme une sorte de maison à 4 étages. Et puis tout en haut, c'est le ciel. Et puis au 4e étage, il y a les gens qui sont particulièrement purs. Et puis on s'est rendu compte, ils se sont rendu compte que dans cet étage 4, il n'y avait quasiment qu'un groupe de personnes, c'était les papes. Donc eux, ils sont particulièrement purs, puis ils sont plus proches du ciel que tous les autres êtres humains. N'étaient-ils pas d'ailleurs les représentants de Jésus-Christ sur terre? Donc ils sont purs, quoi. Quand on voit l'histoire des papes, on peut se poser quelques questions. Je pense aux Borgia, je pense à certains. Voilà. Et puis ensuite, au 3e étage, c'est le lieu des chrétiens qui sont imparfaitement sanctifiés. Quand on dit chrétien, on parle de catholiques. Donc des catholiques qui sont catholiques, qui ont été baptisés catholiques, mais qui ne sont pas vraiment saints. On va dire le reste. Et puis, c'est pour ça qu'on fait des prières pour eux. C'est pour ça que quand, par exemple, vous allez à un enterrement catholique, vous entendez eh bien, on va utiliser ce moment particulier d'enterrement pour faire une messe pour des morts et pour des papes. Et souvent, tout chaque fois que j'étais à des enterrements catholiques, ils demandaient à prier pour les derniers papes défunts, pour que du 4e étage, ils puissent rapidement aller accéder en haut. C'est impressionnant. Dans tous les pays du monde, on prie à chaque enterrement catholique pour les derniers papes défunts, pour qu'ils puissent rapidement accéder au paradis. En troisième lieu, il y a les enfants non baptisés, qui, c'est pas leur faute, mais ils sont quand même. Alors on va prier aussi pour eux. Donc il y a vraiment un culte de la mort qui est important, où quasiment, voilà, c'est tout en présent. Puis tout en bas, ben c'est le lieu des païens. C'est nous. Je ne sais suis désolé de vous apprendre, mais nous, on n'est déjà pas catholique, donc on n'est plus des enfants, donc on est tout en bas de la hiérarchie, de ce... Donc on a du travail, mes amis, pour y arriver, y accéder. Ouf! Donc ça, c'est un petit peu une de leurs croyances. En deuxième croyance, c'est le sommeil de l'âme dans cette. Donc on parle toujours de l'état intermédiaire, d'accord? Un sommeil de l'âme où on entend parfois des gens évangéliques même en parler, mais c'est une mauvaise doctrine. C'est-à-dire que une fois qu'on est mort, eh bien, on va, comme le corps s'est endormi, hein, puisque Jésus disait de Lazare, donc du frère de Marthe et Marie, il n'est pas mort. Il dort, puis après il ressuscitera, mais oui, on sait qu'il dort, etc. Hein, et ce qu'il il va ressusciter. Non, non, il dort. Donc son corps dort, mais son âme et son esprit, est-ce qu'ils dorment? Puis la réponse est non. Le livre de l'Apocalypse nous montre qu'il y a des activités, qu'il y a des réalités, puis que l'âme et l'esprit n'est pas endormi en attendant le jugement. Et pourtant, beaucoup de gens peuvent le croire. L'expérience de justement de Lazare et Abraham montrent que, ils sont pas en train de dormir, mais qu'ils ont une certaine activité. Il y a une autre doctrine, pardonnez-moi de ce mot un petit peu particulier, qui est l'annihilisme. C'est les témoins de Jéhovah qui croient ça. Donc tout de suite, je vous rassure, vous n'y croyez pas. Ça consiste principalement pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Selon cette doctrine, il n'y a absolument pas d'existence consciente pour les damnés, donc pour les gens qui ne sont pas sauvés après la mort physique. Parce qu'un Dieu d'amour ne laissera pas des créatures humaines souffrir éternellement. Donc elles vont être annihilées, c'est-à-dire détruites totalement, corps, âme et esprit, alors que les autres vont vivre éternellement. Donc Dieu est bon, il n'y a que ceux qui sont sauvés qui vont vivre éternellement, puis ceux qui ne sont pas sauvés, ben, ils vont simplement cesser d'exister, corps, âme et esprit. Il y a une doctrine qui est très très proche, que je vais mettre avec, qui s'appelle l'immortalité conditionnelle, qui est à peu près la même chose, qui dit que l'âme, elle devient immortelle seulement quand la personne se convertit à Jésus. Et puis celui qui meurt sans Christ ben, cesse d'exister comme un animal. Et puis on retrouve un petit peu cet annihilisme où il n'existe plus. Voilà, donc ça c'est une chose que vous ne croyez pas. Puis aussi une autre chose qui était chantée par Michel Polnareff. Et d'ailleurs, je me suis dit, quand ils vont entendre la chanson, ça va pas, ils vont tout le temps la voir durant toute la journée. C'est ce qu'on appelle l'universalisme. Elle dit que Dieu est tellement bon et rempli d'amour que finalement, allez, tous les hommes seront sauvés, quel que soit leur acte et quelle que soit leur religion aussi. On ira tous au paradis. Oh. Et je l'ai réécouté hier soir dans sa version originale et c'est assez intéressant, hein. Les bonnes sœurs et les brigands, même les chiens et les démons, tout le monde y passe, hein. On sera tous sauvés. Donc voilà, ça c'est l'universalisme. Et puis j'aimerais aussi parler du culte des morts. Parce que c'est toujours dans cet état intermédiaire. Est-ce que les morts ont une action envers les humains? Hein, puisqu'ils ont le temps, finalement. Est-ce qu'ils ont une action envers les humains? Et puis cette croyance, elle affirme que les morts, ils ont justement une activité particulière auprès des vivants. On retrouve ça dans certaines religions chrétiennes. Ils veillent sur les gens, ils les protègent, ils les regardent, ils les conseillent. Et puis finalement, les gens, on ne peut pas faire le deuil des gens qui sont, on ne peut pas se séparer parce qu'ils sont toujours là. Ils sont au-dessus de nous. Oh, il y a grand-papa qui nous regarde. Et puis, dans certaines familles, on met un poster de la peau, un portrait de la personne décédée. Et puis, chaque fois qu'on a des choses à dire, on regarde le poster, on parle à cette personne, comme s'il était vivant, comme s'il pouvait nous conseiller, nous écouter. On le fait. Pardon? Et ça existe. Enfin, moi, j'étais catholique avant, donc je peux parler en connaissance de cause aussi. Hein. J'étais même enfant de cœur, pour ceux qui veulent le savoir. Et puis, ça se traite du côté des morts. On croit qu'ils ont une activité. Et puis, les vivants vont aussi solliciter ces morts en les priant, en leur demandant conseil, en leur parlant, et puis en cherchant à communiquer avec eux. Puis le fait de vouloir communiquer avec des morts, ça s'appelle du spiritisme. Donc, ce serait peut-être bien de les laisser là où ils se trouvent, ces morts. Et puis il y a des gens qui nous disent, mais ça marche. J'ai demandé lors d'une séance de spirit à mon grand-père qui était défunt où se trouvait la clé du cadenas qui était se trouvait là, et il m'a dit où il était. Il n'y a que lui qui savait où il était. Donc c'est vraiment lui. Et on est peut-être impressionné par ce genre de choses. Alors, pour faire court, laissez-moi peut-être vous dire que il peut très bien se passer que cette personne ait été habitée par un démon et que ce démon savait un petit peu la vie de la personne. Et quand un spirit appelle une personne, eh bien, elle fait en fait appel au démon. Puis c'est le démon qui était chez cette personne qui va réagir et expliquer des choses. Parfois même prendre la voix du grand-père en question. C'est assez impressionnant. Mais n'en croyez pas que c'est dans l'état intermédiaire, les morts ont une quelconque relation avec les êtres humains. C'est pas possible. La Bible, elle le dit très bien. Ça, c'était les hérésies. Et je vais vous montrer un petit peu dans ce schéma ici, un petit peu quelles sont ces hérésies pour qu'on puisse bien les voir. Normalement, voilà. Donc j'ai repris ici l'universalisme. Donc ça c'est moi qui fais comme ça quand j'écris chrétien. Je fais un petit Christ puis un petit trait en dessous. Ça veut dire que les chrétiens sont des petits Christs. Et c'est vrai. Pipé, ça veut dire païen. Alors, l'universalisme, donc souvenez-vous, ça veut dire qu'on sera tous sauvés. On ira tous. Donc les chrétiens, ils sont sauvés. Youpi. Ou le chrétien. Et puis le perdu, ou le païen, il est sauvé. Finalement, c'est intéressant de croire à ça, hein, parce qu'on est tous gagnants. On est tous gagnants. Le purgatoire. Alors, le purgatoire, eh bien, le païen, il est perdu. Hein, d'ailleurs, l'Église catholique, elle dit très clairement. Hors de l'Église, sous-entendu l'Église catholique, pas de salut. Ça, c'est sa doctrine de base au niveau de savoir qui appartient ou non à l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Celui qui ne fait pas partie, il est perdu. Les chrétiens maintenant, est-ce qu'ils sont sauvés ou ils sont perdus? Ben, ils sont tous, je vais me marier comme ça. Ils sont tous en chemin vers le salut, puisqu'ils sont tous au niveau du purgatoire, puis on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment sauvés, puis il faut suffisamment de prières pour eux pour qu'ils puissent être sauvés. Donc ils sont tous en chemin. Donc il n'y a pas vraiment, je dirais, avec cette doctrine-là, d'espérance. L'annihilisme, est-ce que les chrétiens, ils sont sauvés ou ils sont perdus? L'annihilisme, c'est-à-dire qu'à la mort du païen, il disparaît, il est annihilé, il est détruit. Donc, au niveau du chrétien, mais il est sauvé, youpi. Et puis, au niveau du perdu, il n'existe plus. Et puis, on va arriver, c'est le saint d'Abraham, ici, qui n'a rien à faire là. Et puis au niveau du paradis ou l'enfer, alors c'est un petit peu nous ce qu'on croit. En chrétien, c'est notre croyance hein, qui va être sauvée pour l'éternité et le perdu, il sera le païen, il sera perdu. Mais ceci, c'est pour l'éternité. Puis quelqu'un disait. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. D'accord. Donc, on voit. Oui? Oui, mais les païens, ils ne sont pas catholiques. Il faut être baptisé pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut être baptisé catholique. Oui, si on prie pour nous. Alors, il y a une modification de la doctrine catholique et protestante dans les années 1990, donc ça nous rajeunit un petit peu, qui disait que quand un catholique épousait un protestant, et puis qu'il faisait un mariage catholique, eh bien le protestant devait se faire baptiser catholique pour pouvoir épouser cette dame, ou l'inverse. Parce que on ne reconnaissait pas ce mariage, et non seulement il devait se faire baptiser, mais il devait la confesse avant le mariage, se faire baptiser à la confesse pour être catholique, pour pouvoir entrer dans un mariage non, enfin impur quoi. Et puis à partir de 1990, ils ont décidé, les églises catholiques et les églises protestante, de reconnaître ce baptême, le baptême de l'un et de l'autre, pour éviter qu'il y ait tout ce remue-ménage de baptême dans le cadre des mariages. Et à partir de, je crois, c'est 97 ou 98, je ne suis pas vraiment sûr, eh bien les catholiques qui se marient dans une église protestante n'ont pas besoin de se faire baptiser protestant, et les protestants qui se marient dans une église catholique où il n'y a qu'un prêtre n'ont pas besoin de se faire baptiser catholique. Donc il y a un petit peu de changement à ce niveau-là. C'est bien, mais ça ne résout pas le problème, quoi. Ce qui fait que purgatoire, c'est vraiment pour les catholiques, on est d'accord. Heureusement. Voilà. Donc, on comprend bien ceci, que nous, on croit qu'une personne, quand elle se convertit, elle est sauvée pour l'éternité. Puis quand une personne, à sa mort, n'a pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, elle est perdue pour l'éternité. Loin de nous, écoutez bien, parce que ça c'est important, loin de nous le droit de juger une personne sauvée ou perdue après sa mort. Ça en revient à Dieu. Quand j'étais jeune, j'étais très manichéen. Lui, il est perdu, lui, il est sauvé, il est mort sans Christ, donc il est perdu. Mais ça, je ne suis pas Dieu. Et on ne doit pas être Dieu non plus. Puis on doit laisser vraiment à Dieu le soin de savoir qui est sauvé et qui est perdu. Ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, nous, c'est de nous occuper de nous, déjà. C'est déjà pas mal, un boulot à plein temps. Et puis de partager l'évangile aussi aux autres. Mais on ne peut pas spéculer sur l'avenir spirituel des uns et des autres. Ça regarde le maître. Hein, si quelqu'un tombe, ça ne te regarde pas. Finalement, l'idée, c'est de se dire, ben, laissons à Dieu les prérogatives de Dieu, et puis nous, on a tous des gens qui sont décédés sans avoir vraiment fait ce pas de foi avec Jésus. On ne peut pas dire ce qu'il en est. On ne peut pas vraiment le dire. On doit laisser cette seule initiative à Dieu. Et ça nous pourrira moins la vie, je dirais. Maintenant, le lieu des morts. Où vont-ils ces morts? Alors, quelle que soit la raison du décès, le corps physique après la mort va retourner à la terre, à la poussière. Ça, c'est un passage de la Bible. Et puis, si l'élément matériel de l'homme, c'est-à-dire son corps, se retrouve la plupart du temps dans un cimetière, hein, pas toujours, hein, parce qu'il peut être, je sais pas, mangé par un requin, brûlé dans un feu, accident d'avion, et puis on retrouve plus son corps, enfin, des choses comme ça. Il n'est pas toujours dans un cimetière. C'est intéressant parce que le mot cimetière, c'est un mot positif. Le mot cimetière, ça veut dire dortoir. Mais oui, ça veut dire dortoir. Ça veut dire que les gens, les chrétiens, ils pensaient que ben, ils étaient là, puis ils étaient en temps le corps dormait en attendant la résurrection. C'est beau ça, je trouve. C'est beau quoi, ce mot cimetière. Et c'est ce qu'on verra après la petite pause, ce cimetière, ce lieu des morts, où se trouvent les morts, pas pas au niveau physique, ça on le sait bien, hein, c'est soit dans un cimetière, soit ailleurs. On parlera aussi du fait de se faire incinérer, hein, qu'est-ce que ça se passe ou pas. Mais ça, on va faire d'abord un petit peu de temps de pause. Pour moi, le temps de pause, il est important parce qu'on peut se poser des questions. On peut se dire, ah, mais moi j'ai ça. Ah ben, tiens, je poserai ça comme question. Et puis, on peut aussi discuter. Et puis, on parlera de ces derniers points, ce qui est le lieu des morts, et puis la résurrection. Et puis après, on parlera un petit peu des jugements, parce qu'il y aura différents jugements que l'homme va devoir subir. Puis on verra dans lequel on va passer à côté, puis lequel on va devoir y passer. Alors, à tout à l'heure.